Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans ce nouvel épisode en deux parties, j'ai eu envie d'évoquer pour vous Catherine de Médicis. Non pas la reine, mais la femme et la mère. On dit souvent d'elle qu'elle fut une mère tyrannique. Aujourd'hui, on parlerait d'ailleurs plus volontiers d'une mère abusive. Cette réputation résiste-t-elle à l'examen des faits? C'est ce que nous allons voir. Seconde partie, favoritisme et désillusion. En ce beau jour de l'année 1570, se déroule au Louvre une scène d'anthologie. Catherine et ses deux fils, Charles et Henri, ayant appris que Marguerite, leur petite sœur, avait passé la nuit avec son amant, le jeune et beau duc de Guise, que tous détestent, ils se lèvent à 5h du matin pour les surprendre et pénètrent brutalement dans la chambre de la princesse. Guise a tout juste le temps de s'enfuir par la fenêtre. Charles IX jette rageusement sa sœur par terre et la roue de coups aidée par sa mère. Marguerite se retrouve en loques, cheveux arrachés et pleines d'échymoses. La mère, ses deux fils, sa fille, tous en chemise de nuit au petit matin en train de se crêper le chignon. Sacré tableau de la famille royale. C'est une grave faiblesse de la part d'une mère d'avoir un chouchou parmi ses enfants et de le manifester de façon évidente. Or, Catherine a bel et bien un chouchou, Alexandre, alias Anjou, alias le futur Henri III. Il est de loin son enfant préféré. À ses yeux, il est le plus beau, le plus intelligent de sa couvée. Elle l'appelle mon trésor, mes yeux, mon tout. Plutôt mieux portant que ses frères et sœurs, il est vrai qu'Henri est un enjôleur d'une beauté rare. Vivement intelligent, bourré de charme élégant, il a des manières raffinées. Son enfance a été bien différente de celle de ses frères. Alors que ces derniers passaient leur vie à cheval, à la chasse, lui n'a jamais aimé que le confort des salons, les étoffes, les tapis. Il subit très fortement l'emprise de cette mère ultra-possessive et, pour employer le langage de la psychanalyse, castratrice. Il l'adore et lui obéit en tout, du moins pour l'heure. Car il est aussi un grand cyclotymique, capable de passer en un éclair de l'euphorie à la prostration. Il ne sait rien faire autrement qu'avec excès. Comme son aîné François, il a des crises de haine irrationnelles dont même sa mère finira par faire les frais. Mais pour l'heure, elle vient de faire de lui le lieutenant général du royaume. Charles IX est ulcéré et horriblement jaloux. Leur mère ne vient-elle pas de faire d'Anjou une sorte de vice-roi? Plus insupportable encore, Henri va remporter à Jarnac le 13 mars 1569, puis à Montcontour le 3 octobre 1569, des victoires éclatantes sur les protestants de Condé et Coligny. Chaque succès obtenu par ce frère abhorré est un nouveau coup de poignard qui perce le cœur du roi. Au passage, le clan protestant a été décapité avec la mort à Jarnac du prince de Condé. Condé est remplacé par Coligny à la tête des calvinistes, dont les nouveaux chefs sont Henri de Navarre, qui deviendra Henri IV, et son cousin Henri de Condé. Le futur Henri III passe maintenant pour un stratège de génie dans toutes les cours d'Europe, tandis que Charles ne connaîtra que des fiascos. Certes, il est toujours roi, mais son frère est très populaire, on l'admire, on l'applaudit. Lui, s'affaiblit à vue d'œil. Après bien des victoires et des défaites entre camps protestants et catholiques, une trêve est conclue qui met un terme à 3 années de guerre civile et débouche sur la paix de Saint-Germain-en-Laye à l'été 1570. Cette paix est précaire, mais Catherine la défend de toutes ses forces. Elle autorise même le retour de Coligny dans le conseil du roi et mijote un mariage entre sa fille Marguerite et Henri de Navarre, l'un des chefs du parti huguenot. Mais pendant qu'elle raccommode les morceaux entre catholiques et protestants, la haine entre ses deux fils est de plus en plus palpable. D'autant que l'amour de leur mère et les champs de bataille ne sont pas les seuls terrains sur lesquels ils s'affrontent. Ils se disputent également l'amour de leur sœur Marguerite. Ah, Marguerite, la plus réussie de toute la fratrie, cultivée, radieuse, en parfaite santé. Elle n'existe pas aux yeux de Catherine, elle n'est qu'une monnaie d'échange que l'on pourra utiliser le moment venu dans quelques mariages diplomatiques. Marguerite a peur de sa mère qui la paralyse et ne lui adresse guère la parole. Ses frères, en revanche, sont fous d'elle, surtout le plus jeune, François d'Alençon. Cette âme torturée au visage déformé par la petite vérole, ce gnome aux cheveux crépus que l'on surnomme le Moricaud, le mort, avec qui elle est restée longtemps confinée au château d'Amboise. Encore un que sa mère ne regarde pas. C'est Henri le chouchou qui va apprendre à Marguerite à s'habiller, à se coiffer, à danser. Ces deux-là sont très proches, trop proches. Marguerite elle-même ne s'accusera-t-elle pas dans ses mémoires d'avoir roussi son cotillon, c'est-à-dire couché avec ses deux frères? Deux de ses frères, trois, un, zéro. Quoi qu'il en soit, Charles et Henri vont se la disputer comme des fauves s'arrachent un morceau de chair fraîche, puis ils se retourneront contre elle. Après l'avoir adorée, Henri III la poursuivra toute sa vie d'une haine implacable. Marguerite ne pardonnera jamais à ses deux frères de l'avoir molestée ce fameux jour de 1570 et de l'avoir séparée de Guise dont elle était éprise. Dès lors, elle ne fera plus que comploter avec son âme damnée de petit frère, le Moricaud Alençon, dont elle fait ce qu'elle veut. Attendre la mort de Charles, évincer Henri, mettre Alençon sur le trône, envoyer leur mère dans un couvent où on n'entendrait plus parler d'elle. Voilà les beaux projets que caressaient les deux conspirateurs. Mais pour l'heure, sa mère a décidé de la marier. En août 1572, la fine fleur de la noblesse catholique et protestante se retrouve à Paris pour célébrer ses noces avec le huguenot Henri de Navarre. L'atmosphère est déjà très tendue quand le 22 août, Coligny fait l'objet d'une tentative d'assassinat commanditée probablement par les Guises. Les Huguenots crient vengeance, tandis que les Guises quittent la ville pour calmer les esprits. Catherine et ses fils prennent peur. La ville est pleine de protestants. Et si on voulait les assassiner? Il est donc décidé de prendre les devants en éliminant une vingtaine de chefs Huguenots. Malheureusement, les choses vont dégénérer et dans la nuit du 24 au 25 août 1572, nuit de la Saint-Barthélemy, des milliers de protestants sont massacrés dans Paris. La province suivra le lendemain et les jours d'après. Ce sont Catherine et Henri qui ont arraché à Charles cette décision de liquider les principaux chefs huguenots. Ils ont finalement été dépassés par les événements et la Saint-Barthélemy marquera d'une tache indélébile le règne de Catherine. Désormais, elle n'a plus qu'une idée en tête, trouver un trône pour son fils préféré. Ce trône, ce sera celui de la Pologne, un trône électif. Il va donc falloir ouvrir les cordons de la bourse. Mais Charles IX est prêt à tout pour qu'on le débarrasse de son frère. Savoir qu'il ne l'aura bientôt plus sous le nez sera même la dernière joie de sa vie. La Pologne ! Mais quelle horreur ! Henri ne cesse de repousser son départ. Excédé, Charles le menace par lettre, le 22 août 1573, de le faire mener à la frontière manu militari. La mort dans l'âme, Henri obtempère. Alençon et Marguerite l'accompagnent jusqu'aux marches de la Lorraine et assistent à Nancy à une grande fête d'adieu. Eux sont aux anges de voir déguerpir ce frère qu'ils détestent. Leur mère, elle, est évidemment au désespoir. L'historien Yvan Cloulas rapporte.
Le 12 novembre, Charles IX se sépara de son frère dans les larmes et les cris, démonstration exagérée de douleur, sous lesquels les spectateurs sentirent percer le contentement.
Ces adieux sont un modèle d'hypocrisie. Les larmes de Catherine et d'Henri sont les seules qui soient vraiment sincères. Catherine s'en rend-elle compte ? Elle semble n'avoir jamais mesuré à quel point ses enfants se haïssaient. Aveuglement de mère. À 23 ans, Henri découvre tout à la fois la froide Cracovie et sa future épouse, Jaguelon, un épouvantail quinquagénaire avec lequel il ne peut guère échanger que trois mots en latin, s'il vous plaît. Mais moins d'un an après son exil, son frère Charles meurt à 24 ans des suites d'une pneumonie tuberculeuse. Ses dernières paroles, on s'en serait douté, sont pour sa maman.
Adieu madame, adieu ma mère.
Mais Catherine a déjà de nouveaux projets, ni une ni deux. Elle écrit à son cher Henri qu'il devient roi de France et doit au plus vite revenir de Pologne. Elle conclut.
Si je venais à vous perdre, je me ferais enterrer avec vous toute ma vie, car je ne pourrais supporter ce mal.
À la nouvelle de la mort de son frère, Henri faillit défaillir de joie. Il s'enfuit de Pologne en pleine nuit et chevauche bride abattue 8 jours durant jusqu'à Venise. Voilà Catherine à nouveau régente. Elle ne retrouvera Henri que 4 mois plus tard, en septembre 1574, à Bourgoin, au sud de Lyon. Quand il se revoit enfin, il passe une heure entière à sangloter de joie et d'émotion dans les bras l'un de l'autre. Catherine est persuadée que va s'ouvrir maintenant une ère de bonheur, qui la verra présider aux destinées du royaume de France en harmonie avec son fils préféré. Lourde erreur. Elle n'exercera plus jamais le pouvoir comme elle l'avait fait jusqu'à présent. Bien sûr, elle sera toujours associée aux décisions. Mais Henri et elle commencent à s'opposer sur différentes questions, la distribution des dignités ou encore le mariage du roi. Catherine a déjà porté son choix sur 2 princesses, l'une danoise, l'autre suédoise. Mais Henri, lui, a décidé d'épouser Louise de Lorraine, rencontrée à Nancy avant son départ en Pologne, notamment parce qu'elle ressemble physiquement à la défunte Marie de Clèves dont il était fou. Catherine est mise devant le fait accompli. Henri épouse Louise le 15 février 1575, 2 jours après son sacre. À François ou à Charles, Catherine aurait imposé son avis. Avec Henri, elle n'y arrive pas. Elle a des reculades inédites. Cependant, en 1576, le roi de France, c'est encore elle, et dans Paris circulent des pamphlets qui brocardent son fils. On y lit des formules telles que
« Henri, par la grâce de sa mère, inerte roi de France ».
À partir de 1576, Henri III évince partiellement sa mère, car il est contre sa politique de tolérance vis-à-vis des protestants. Catherine continue d'exercer le pouvoir, certes, mais elle ne peut plus agir sans le consentement de son fils. Ces derniers mois seront assombris par la montée en puissance de la Ligue catholique, opposée à la désignation d'Henri de Navarre, un huguenot, comme successeur de Henri III. Paris non plus ne veut pas d'un futur roi protestant. Le 9 mai 1588, malgré l'interdiction du roi, Henri de Guise entre dans Paris et se rend au Louvre à la tête d'une troupe assez considérable. Paris en tient pour les ligueurs et se révolte contre son roi. Le 13, c'est la fameuse journée des barricades qui voit le roi de France obligé de quitter sa capitale. À cette heure, Henri n'a plus de roi que le nom et c'est Guise, dit le balafré, qui est le nouveau maître du royaume. Comme toujours, Catherine prend les choses en main. Elle quitte Paris pour convaincre son fils de nommer Guise lieutenant général du royaume. C'est ça ou le chaos ? La royauté des Valois chancelle. Que va devenir le royaume de ses fils auquel elle a consacré sa vie ces 30 dernières années ? Elle n'apprend qu'après coup l'assassinat du duc de Guise. Elle est consternée. Henri se croit-il tiré d'affaire ? Quelle erreur ! La Ligue ne lui pardonnera pas la mort de son champion. Catherine est abattue. C'est alors qu'elle prend froid et doit s'aliter, très affaiblie. Elle ne se relèvera pas. A-t-elle alors le pressentiment que s'en serait fini bientôt des Valois ? De fait, le prochain roi sera un Bourbon. Catherine mère de 3 rois et de 5 guerres civiles, rend son dernier soupir dans les bras de son fils et de sa belle-fille le 5 janvier 1589 au château de Blois. Elle avait 69 ans. Hormis son fils, son principal héritier, elle lègue presque tout ce qu'il lui reste à sa petite-fille, laisse Chenonceau à sa belle-fille, Louise de Lorraine, et d'innombrables petites sommes d'argent à toutes ses femmes de chambre. Et sa fille Marguerite dans tout ça? Rien. Margot a purement et simplement été rayée de son testament. En latin, détestare, qui a donné détester, synonyme de haïr. Ça ne s'invente pas. Voici les premiers vers de l'épitaphe composée pour Catherine de Médicis par Étienne Pasquier.
Sigi, la fleur de l'état de Florence, veuve de roi, mère de roi aussi, qui conserva d'un merveilleux souci tous ses enfants contre la violence.
En voilà un qui avait tout compris. Alors, Catherine de Médicis, mère abusive, entre la femme grasse et purgée d'enfants, décrite par Michelet, ou la reine toute dévouée à ses enfants et à la couronne de France, dépeinte par Ivan Cloulas dans sa Catherine, il y a une place pour une Catherine de Médicis moins caricaturale, une grande souveraine, mère à la fois abusive et tyrannique, mais aussi généreuse, et qui, selon la formule de Jean Horieux, si elle sut admirablement régner, n'avait pas su faire de roi. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Cet épisode a été écrit et raconté par Clémentine Portier-Kaltenbach. Il a été réalisé par Oscar Vatter. Bibliographie. Henri II, par Didier Le Fur, aux éditions Talendier, 2009. Catherine de Médicis, par Jean Horieux, aux éditions Flammarion, 1986. Catherine de Médicis, par Ivan Cloulas, aux éditions Fayard, 1979. Charles IX, par Emmanuel Bourassin, aux éditions Artaud, 1986. Testament de Catherine de Médicis, archives royales de Chenonceau, par M. l'abbé Chevalier, 4 volumes, Paris, par Jean Techner, 1862. La triple vie de la reine Margot, par Jean Castarède, aux éditions France Empire, 2011.